Les deux se conjuguent pour le grand malheur d'ailleurs des Chinois. Même dans des pays très fermés au monde, c'est ce système-là qui c'est ce système-là qui prévaut. Alors on pourrait croire que c'est pas important de débattre de ça, tu vois, dans la mesure où on peut se dire à la limite qu'on appelle ça idée, système. L'essentiel est qu'on soit conscient de ce qu'il produit et de la nécessité de le combattre. Mais je pense malgré tout qu'en affinant, en discutant comme on le fait, en essayant d'affiner nos positions, la façon dont on perçoit le capitalisme, au-delà de la simple brutalité qu'on peut ressentir en lui, je pense que, eh bien, ça peut être une bonne arme, je dirais, pour être ben, clairvoyant et le combattre le mieux possible, définir son adversaire tel qu'il est, tout simplement. L'exemple des casseroles que je donnais tout à l'heure, ça me paraissait important, en fait. Et c'est grâce à une discussion que j'ai eue avec Natacha où, à un moment donné, j'ai eu ce truc des casseroles qui m'est revenu. Et je me suis dit que dans cette réaction très... très primaire, d'une certaine façon, faire du bruit pour ne pas écouter le discours d'un homme politique, mais qui voulait nous parler de modalités de l'application d'une logique libérale, eh bien, il y avait effectivement quelque chose d'extrêmement sain. Et je faisais la comparaison, si tu t'en rappelles, Natacha, avec mai 68, cette image de mai 68, parce que j'ai pas vécu cette époque-là, où on voit tous ces manifestants par milliers, tous avec leurs transistors à l'oreille, en train d'écouter ce qu'allait annoncer le discours du général de Gaulle. Et je me dis que tout compte fait, dans cette situation là, présente aujourd'hui, où on n'est pas dans un mouvement révolutionnaire, je trouvais que cette réaction était très très saine. Parce que je pense que l'attitude qui peut consister à commencer à ressentir tout ce système comme nous étant étranger... hormis le fait de le subir, bien évidemment, peut amener effectivement à dire à des grévistes pendant le discours d'un Premier ministre, c'est du baratin. À d'autres moments, effectivement, faire une casserolade pendant le discours d'un président. Et à la finale, conscient de ce que sont les forces auxquelles on est opposé, eh bien... provoquer, accentuer toujours une rupture. Une rupture qui peut amener à plus d'autonomie, qui peut réactiver le saint principe de la lutte des classes. Voilà, à la finale, ce que je pense. Après, fondamentalement, il y a plein de gens qui luttent contre le capitalisme parce qu'ils en sont victimes et qui ne se posent jamais, contrairement à nous, quelques questions que ce soit sur ce qu'est le capitalisme. Ils le voient, et c'est là-dessus que je voulais terminer, ils le voient tout simplement dans la brutalité de celui-ci comme un effet dévastateur, comme l'effet dévastateur d'un prédateur. Il reste quelques minutes, Natacha,
Nicolas,
peut-être.
Nicolas peut-être qui a beaucoup parlé, non?
Natacha et Nicolas.
Oui.
Natacha.
Justement, enfin, quand tu prends l'exemple des casserolades. Moi, enfin, j'étais plutôt d'accord avec ce point de vue-là, de se dire que c'est une bonne solution de dire « je vous écoute même pas », en parlant des politiciens. Le truc, c'est que quand je compare à d'autres personnes qui sont dans une idéologie avec qui je ne veux pas parler non plus, bah, je pense que c'est exactement la même tactique à adopter, quoi. Et que c'est... comment dire, bah, fondamentalement, c'est une ce qui concerne les casserolades, je pense que c'est bien vu, mais c'est pas quelque chose qui va dans le sens de prouver que le capitalisme n'a pas été construit sur des bases idéologiques. Après, quand je le disais juste avant, c'est justement cette idée d'idéologie dominante qui est assez important, parce que est-ce que un système qui se fonde sur une idéologie a besoin que chacun de ses membres soit un idéologue? Absolument pas. Il a juste besoin du consentement ou de l'acceptation l'ensemble ou de la quasi-totalité de la société, en particulier de ceux qui la dirigent, soit du fatalisme, à se dire c'est comme ça, c'est pas le meilleur système mais c'est le bon à pire, soit de la caution morale en disant il faut bien faire comme ça, ça rejoint celle de juste avant, sinon ce serait pire, ou les théories du ruissellement, et de les appliquer, qui oui évidemment sont des purs baratins, mais comment dire le, comment bah, mais ce qui se passe, c'est que justement, enfin, le système n'a pas besoin que tu le penses sincèrement de façon idéologique, ou que tu sois juste en train de baratiner pour te faire du blé. Du moment que ça va dans le sens du système, il perdure, c'est tout. Que ce soit que ses défenseurs le fassent dans une idée consciente ou non, ou par pur baratin. Voilà.
Nicolas, le mot de la fin.
Ah, un mot. Ben, ce sera arnaqueur, le mot de la fin, je pense. Parce que je pense que les capitalistes, finalement, sont des gros arnaqueurs, des menteurs, des arnaqueurs, et que c'est une arnaque dès le départ, ce système, puisque c'est basé sur un mensonge initial, de toute façon. Et d'ailleurs, je dirais, d'ailleurs, pour le définir un peu plus précisément, plutôt c'est l'exploitation des hommes et des femmes par des hommes de main, parce que les capitalistes, leur système, c'est, leur idée, c'est de mettre de l'argent et après de faire travailler les autres, et tout en défendant et répandant la valeur travail aussi, puisque c'est ça qui permet justement de faire travailler des tas de gens pour leur profit. Mais eux-mêmes passent leur temps à profiter de leur richesse.
Et la valeur travail, ils ne l'appliquent pas comme tout ce qu'ils professent, hein, d'ailleurs, en général.
Puisque tu mets de l'argent, déjà, il faut avoir de l'argent pour entreprendre dans un but lucratif, qui est devenu synonyme d'entreprendre tout court, et tu fais travailler les autres et t'encaisses les bénéfices. Donc tu travailles pas toi-même. Et je pense que le système aussi politique qui va avec, c'est le libéralisme. Et on le voit aussi, quand le libéralisme s'installe, c'est une grosse arnaque dès le départ. On entend souvent dire que les idéaux de la Révolution française ont été dévoyés, etc., ou que aujourd'hui Macron célèbre la Révolution en détournant, mais en fait pas du tout. C'est bien la Révolution du système qui est en place aujourd'hui, et avec ces idées de liberté, d'égalité qui étaient mises en avant pour que les gens aillent se faire buter, comme aujourd'hui on met la barre travail pour qu'ils aillent travailler, se faire buter pour renverser la classe au pouvoir, mais avec une idée derrière qui était bien là, c'était pas des gens qui se trompaient, qui se trompaient eux-mêmes, je veux dire, ils avaient cette idée-là, ils l'avaient, ils savaient très bien.
Cette intention,
ils savaient très bien. Oui, voilà, cette intention, c'était que leur intention, de c'était pas du tout la liberté et l'égalité pour tous, c'était comme disait Kropotkin dans le bouquin sur le sujet, ils pensaient plutôt à la liberté du business, de faire leur profit, de faire leurs affaires.
Sans mettre plein les poches, tout simplement, sans aller chercher autre chose comme type d'intention philosophique. Quoi.
Mais c'est de là d'où viennent les courants de pensée libérales, libertariens et... néolibéral par la suite.
Tu appelles ça de la pensée, mais c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. C'est tout.
On va, le débat reste ouvert, bien évidemment. Il est plus de 13h, donc on va vous laisser. Retrouvez-nous sur le site anarchiste.info. Vous retrouverez les émissions de lundi matin. Vous retrouverez aussi un streaming, un podcast, des articles, etc. Ça continue sur Radio Libertaire. Nous, on vous quitte en vous donnant peut-être rendez-vous la semaine prochaine avec un disque 13 minutes 12 contre les violences policières. La musique est de l'inconsolable et on retrouve plein d'artistes. Au revoir, à la semaine prochaine.
Malik Oussekin, Makome, Amin ou Lamine, autant d'hommes noirs ou arabes que la police assassine. Le savais-tu? Entre 1977 et 2019, c'est 676 personnes que la police tue. Derrière ces chiffres, il y a la réalité des vies volées, des familles détruites, d'une soif de justice qui peine à être étanchée. Car dans l'immense majorité des cas, les meurtriers ne seront pas inquiétés. Ils continueront à exercer en toute impunité. Servir et protéger? Non. Sévir et oppresser, tabasser les classes populaires et les personnes racisées. Tel est en vérité le cœur du métier de policier. Maintenir coûte que coûte l'ordre social raciste et bourgeois, il n'y a pas de doute. La police est faite pour ça. À ceux qui s'indignent et demandent « Mais que fait la police ?» Nous répondons
« 18 morts par an, qui ose encore parler de bavure et mentir aux parents. Quand ça fait 40 ans que ça dure, l'exception à l'état de droit, l'oppression à l'état pur. 13, 12, et nous, ça veut dire que tous les keufs sont des raclures. Passe droit systématique, car le problème est structurel. La police prend sous serment, la justice est sous tutelle. L'institution par définition est par nature cruelle. La police tue à tue-tête, et en plus elle fait du zèle.
Une fois n'est pas coutume, 100 fois c'est l'habitude. Lassitude, l'impunité nous rend taciturne. Amertume, l'état d'urgence. T'as pas de fortune, cap dans la tribune. Nique la bac au coin de ma rue. Flashball sous nos figures. Manif et point de suture. Massifs sont les bavures. Injustice en couverture. Steve, Zigné, des bounades sont pas des procédures. Rémi, Cédric et Adama. La police tue.
La police tue, ce n'est plus un secret pour personne. Depuis que les images circulent à travers tablettes et smartphones. Pourtant ça fait un bail. Ah ouais mon vieux, depuis le temps que la vraie racaille se cache derrière des non-lieux. Excusez-moi du peu, mais je ne fais qu'exposer les faits qui foutent le feu dans mes artères à m'en exploser les veines. Je dédie ces quelques vers aux familles des victimes. Lâche un gros glaire sur ces keufs qui jouent les victimes. Yeah,
devant une personne âgée ou un gamin de la baisse, regarde, il propage la guerre en tant gardien de la paix. On écrit gras, tu voudrais qu'on police nos vers. Le caractère de la police influe sur notre police de caractère. Tu dis qu'il n'y a pas que des garibous parmi tous ces types, mais le bon flic a frappé jeune vieille, va-t-il pousser Steve? Ni de Nantes, Paris sous les tirs, ils ont fait nous des quilles. Et encore pire quand tu t'appelles Naïm ou Malikou, c'est qui?
Le plus souvent noir ou arabe de cité, dépité par les juges, leur cécité répétée. S'organiser pour la vérité nécessité des campagnes au quartier confiné cité. Des terres alors prends la rue, écrit bien fort. Anticapitaliste, antifa, anti-port. Ensemble on peut conjurer le mauvais sort. Du pays du dedans à celui du dehors.
Yeah, j'dis c'est que nos proies bras. Tu kiffes au proc, la veut briser nos blocs. Remix fil, 17 octobre. Viser le pogrom, leur ostracisme est colossal. Police militant antraciste et colonial. J'parle de rôle social, peu importe qui en est des gentils. L'État les fera tirer pour protéger les nantes.
gentil, puis les fera acquitter. T'espères transformer les flics. Ma naïveté m'a quitté près d'un transfo électrique.
Rien ne se perd, tout se transforme. Donc leur violence deviendront des projectiles qu'on lance fort sur leur uniforme. Unique forme de réponse, tant que la justice les soutiendra. Et on se souviendra du bruit du port lorsque le schtroumpf viendra. On trouve plein de rats en bleu qui kiffent se défouler sur les frères. Quand tout pètera, c'est le shérif qui sera bouffé par les verts. Je veux pas que mes clips poussent là où les Schmitts prennent pour des GI. Une pensée aux victimes cool, 13-12, NODJA.
Cours, ils les ont dégainés les LBD. A chaque manif j'ai la boule au ventre et un air effrayé. Force aux mutilés, combien qu'on accable pour s'être mutiné auprès du capitaine Akab. A tous les anonymes, tous ceux qu'on connaît pas, y'a pas de place au débat. Alors ne vous étonnez pas si les cocktails et les pavés nous servent de sentence. Car quand la justice n'est plus, il ne reste que la vengeance.
On parle plus de faits isolés, mais bien d'histoire de France. J'en ai noirci des pages depuis ma première marche blanche, il y a déjà 20 ans à Lille. Un triste mois d'avril, d'une balle dans la nuque, un brigadier tu ris, Adam Laoui, encore un jeune buté gratis. Un flic muté à Nice, une justice complaisante, toute une ville brûlée à vif. Tu réalises qu'en vérité, l'histoire ne fait que bégayer. Qu'il faut encore batailler pour voir leur machine s'enrayer.
C'est l'heure de combattre les élites, leur CI et ceux que nous nommons tard. Aucune bavure, c'est que des crimes dont ces raclures sont responsables. Démocrature, violence systémique, elle et Schmitt comme des bourreaux de longue date. Au mic, je suis abrupt, intrépide, et le foie de mes ennemis, c'est le fourreau de mon sable.
Alors, des corps rimes, on les embrase, peu respire. Ce qu'on demande, c'est d'avoir une police sans armes. Et le mot que j'ai griffonné dans le sable, tu t'indignes, sans cesse contrôlé par un flic qui connaît ton blast. Pas de ceux qui rigolent des temps graves, les sœurs et les frères en ont marre. L'État se radicalise, donc obligé de mener la guerre à notre tsar. Bien sûr que je rêve d'autre part, mais pour l'heure je reste à la ville. Trop d'amis s'y sont marqués par la vie, les aider le rôle que je donne à mon art.
Ils ne protègent pas le peuple, mais l'économie. Gère les décis comme dans les colonies. Formés au racisme, à la xénophobie. Tu cherches des bons keufs, mate la rubrique nécrologie. Et rien à foutre si mes écrits choquent. 1. Ils nous aiment pas, mais c'est réciproque. On n'a pas attendu Snapchat et Periscope pour savoir qui est à l'origine de toutes les discordes.
Tu reconnaîtras le bruit des balles mortelles, le bas des bottes. La chasse à l'homme dans les barrios, les petits ramassés par les bords. Les sauvageries de la BAC, les poucaves, les vicis. Les jeunes qui le tuent et prennent la femme pour faire le ménage sous leur tapis. Tu t'entendras tous les mensonges dans les musiques, les conneries dans le JD. Le confort des nantis, les charters affrétés. L'histoire dira que c'est pour la paix, le fond la France des colonies. Au front ça tape la garde à vue, la zonze et ça tu le gardes à vie.
Tout si je suis à Matoukoumé, je suis là pour dénoncer les meurtres que la police commet, les crimes que la justice omet. Que veux-tu faire quand le racisme a un uniforme bleu qu'il souffle sur les braises pendant que les miens ne cessent de crier au feu. Pour un débit de sale gueule, tu pourrais te faire fumer. Garde le sang-froid quand un poulet cherche à te déplumer. Et pour nos morts, on ne cessera de pousser des cris d'indignation face au silence de ce pouvoir qui ne fait que raviver les tensions.
Ce serait trop facile de crier, mais tout le monde aime la facilité. Major en l'air, balance des phoques, quitte à s'en mordre les doigts. Pas de solution, pas de justice, reste la fatalité. Dans un combat où même l'estropié ne baissera pas les bras. La violence par la violence, la responsabilité reste en amont, sabre de guerre et la paix reste à l'écart. Et si le savoir est une arme, ils sont pas tous calibrés. Ou quand les forces de l'ordre deviennent la faiblesse de l'État.
Et à force sont les esquiveurs, mais peut-être bien que c'est ce qu'ils veulent. Sont plus que des bêtes videurs dans cet univers qui meurt. Tous ces êtres si moches, tous à protéger leur maître qui sonne. Le glaive fièrement dans des conquêtes ignobles. Ils aiment la violence, ils sont devenus bâches. Toujours une explication parle de son bon usage. Tu finis ensemble même si t'es venu sage. Ces enculés voient les manifs comme un bonus d'âge.
Honte sur l'école, les cierges, la garde mobile. D'autres les appellent les poulagas, les keufs, les roussins ou civils. On pour les armes, le monopole de la violence légitime. On pour les larmes de ceux qui restent, hommage aux proches et familles de victimes. On les déteste sans distinction aucune. La police viole, assassine et mutile. La justice est complice car elle acquitte en prime. N'attendez pas qu'on se teste car les dossiers s'empilent et que les futurs bâtards s'empressent. Faudrait que ça recrute dans cette école du crime.
La police tue. La police tue. C'est pas le sujet que les infos diffusent. C'est la folie pure. Cherche une autre issue. Mesure d'étranglement. Les noirs ou arabes en France ils vivent dangereusement. Contrôle de routine. Personne pour secourir. Comment dire à un proche qu'on a peur pour lui. Bande de keufs pourris. Bande de meurtriers. J'éviterai les insultes. Pourtant le cœur y est.
Parce qu'il s'avère servir les villes. C'est faux qu'ils servent. Ils rendent service à l'élite. Et sévissent dans le peuple. Parce qu'ils peuvent tuer impunément. Ils sont si fiers d'eux. On devrait presque les remercier de se faire palper les yeux. Du plus haut grade jusqu'au trou de balle en quadrouille. Tellement vite de vie, même les darons en ont la trouille. Ne manque jamais l'occasion de leur appeler à chaque quart d'heure. où les flics ne sont que des traîtres, puis j'en bave de rage.
J'suis grillé comme la Gaule dans un survêtement loto, ou pire que ça, comme De Gaulle dans mon pays Congo. Ils jouent les Robocop, j'y ai goûté très tôt. Taser flash buzz pour National, course poursuite dans le ghetto. Ça me rappelle l'époque de Georgia, oh my man. J'écris allô Marianne, ce lynchage, y'en a marre. Vos étoiles sont profanes, il le tient pas que gendarme. La seule police qu'on aime, c'est celle de Sting Roxanne.
De nos bons de psychopathes, sur des gilets pare-balles. Des brutes épaisses pour protéger le capital. J'ai vu la peur comme outil politique fondamental. On assassine aussi bien avec des armes non létales. Avec un lanceur de balles, on ne fait pas dans la dentelle. Et les bavures ne sont jamais vraiment accidentelles. Au ministère comme à l'antenne, mensonge en permanence. Dans ses regards, ses silences, la police et la violence.
L'ami, je crois que c'est dans l'air, la violence. Faut que t'encaisses quand dans les magnifiques quartiers, la police sera même et rapidement créer l'enfer. Les victimes, on les enterre. Mais qui ose nier le racisme alors pour eux un meurtre est un traitement exemplaire. Shoot les drones que l'on voit se pavaner dans le ciel. Tellement d'étoiles dans les yeux quand on voit que des gens se lèvent. Dis-toi que les concessions, on n'est pas prêt d'en faire. Faut changer la police et pas dans le traitement.
J'attends des termes, le prochain Gus au mandal complexe. Qui verra les images et me dira qu'il a dans le contexte. Pitié, donnez pas d'armes à des mecs bourrés. Si tu vois un noir courir, c'est que c'est la mer courée. Parce que si tu n'as pas la gueule à ma gueule et Gulkin, ton meurtre par un bleu zélé sera pas reconnu comme crime. Payer des impôts pour se faire shooter, je suis confus. Imagine, j'ai l'impression de payer l'État pour qu'on me fume.
Qui parle encore de bavure, d'accident ou de maladresse, ils font juste leur boulot. La note s'aggrave et j'en vois trop peu qui passent à la caisse. J'allume un peu feuille à chaque 13 décembre. La rime perd, se défend, ça sera peut-être moi le prochain à me faire descendre. Et fais pas le commis master, rap pour les maudits pariables. Le marine est rougeant dans tous les commissariats. Est-ce que tu sais comment ces batrains procèdent? Les meurtriers sont décorés comme des sapins de Noël.
J'ai pas vu la justice sous leur sapin de Noël. Mais la haine qu'on suscite quand on atteint nos rêves. Desserre les molaires, faut qu'ils prennent des molars pour plumer la volaille, je ferai du bénévolat. Et c'est plus grave, je connais le prix d'une larme. Combien au prix du grade et combien au tribunal. Non, je simule pas, ma haine est immuable. Mon âme est bien plus clean, même si j'ai la figure sale.
Faciès outrageant, versus monsieur l'agent. Racé sera la proie, elle bronzée a toujours bon foie. Sous leur poids, tu meurs lentement. T'es plié, étranglement, chasse à court, tu seras cobaye. Par choqué par la flicaille, il avait 20 printemps. Voulait voir la mer, dit tu es grand pour le faire taire. La prison l'enterre, pas de justice, mais toujours suspect. Victime sera le criminel, on reconnaît bien la griffe du colon sous bleu rimel.
Leur méthode est coloniale, le contrôle est racial. Maté l'indigène, le sauvage, l'animal. Chaque jour il te rappelle qu'ici c'est pas ton bled. Que ta couleur est trop laide, que ta présence les obsède. Et tu risques la hogra à chaque fois que tu leur tiens tête. Tu risques un tribunal à chaque fois que t'écris un texte. Tellement ils nous oppressent, tellement je me répète. Tellement ils nous agressent, tellement je les déteste.
Et on a répété, 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 répété. Ça use 13-12 minutes de plus pour vous traiter. Ça fait pas de mal, nous on n'a pas de pare-balles. Ni les moyens de la juge pour enquêter.
Pour enquêter, ouais.
Qui vous raquettez? Des noirs et des arabes et quelques blancs bien endettés.
Bien endettés.
Mandat de dépôt chez les suppôts de Le Pen. Générateur de peine et d'anxiété.
J'entends des All Life Matter, putain t'y es pas. Bien sûr toutes les vies comptent en fait, c'est même pas un débat. C'est pas dans quel état ça me laisse. Les choses ne peuvent pas changer si tu restes dans ton color blindness. Pourquoi tu fixes mon doigt quand je pointe la lune? Tu capteras peut-être plus vite avec un genou sur la nuque. T'entends racisme à toutes les sauces et ça dégouline dans ton vide. T'es fatigué d'en entendre parler, imagine ceux qui le vivent.
Hey. Tu sors de chez toi, les keufs te contrôlent à tort et à travers tout ça. Pourquoi? Pour un simple regard de travers de bord. Tu te retrouves au poste, là tu dis que c'est pas qu'un cliché. Tout ce que les rappeurs racontent sur les flics. Police, racisme et politique, vaste communicant. La prochaine pavure, tu crois que ça va se terminer comment? Come on, big, j'suis pas né du dernier des camps. Pour moi, le préfet l'allemand, c'est juste le premier des cons.
Les directives viennent d'en haut d'une autre caste. Tombent en cascade sur les képis et les casques. Forcés à encastrer les leurs sans trop de questions. Les dirigeants cassent. La pression précède à l'oppression. La sanction dans les deux camps, c'est ça l'idée. Changer les termes, changer les mentalités. Le peuple doute de sa sécurité alors qu'il la paie. Les forces de l'ordre ont remplacé les gardiens de la paix.
Peut-on pardonner à un flic? Peut-on pardonner le racisme, les violences gratuites, les coups qu'on nous a donnés? Devrions-nous ne pas pleurer les victimes? Accepter le cynisme, fermer les yeux comme ceux qui nous dirigent. La police assassine, étrangle et prend pour cible les mêmes minorités que visent les discours politiques. Y'a pas d'hasard qui tienne, c'est volontaire et codifié. La violence légitime n'existe que pour dominer.
Hey Darmanin, check bien ton reflet dans les flaques de pisse de ta vie de chien. Plus ce monde t'a échoué par le trou de balle. T'es qu'un frotteur de bus, un pointeur de plus. On te fera glisser le ton facus sec dans les amygdales. Le feu dans les bleus, les yeux dans les yeux. S'il pleut des trottinettes, c'est parce que la rue rejette le non-lieu, la banlieue au milieu. Logo zone commando, rate des villes et radicaux. El pueblo unido déboulonne le comico. Comico, comico.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence, donc avec Jean-Mathias, moi-même, Michel au micro, José, comment dire, en studio, avec un Simon d'Enfant Sauvage qui nous accompagne, même si Enfant Sauvage n'existe plus, c'est pas grave. Et donc,
il sera toujours,
dit José, voilà, qu'il écoute sans cesse. Et ce soir, on va vous présenter, peut-être que vous en doutez, après ce morceau d'X, qui est une reprise de la chanson classique Aïe Carmela, qu'on va vous présenter un bouquin d'un historien anglais, Chris Hillam, Les anarchistes dans la ville. Alors, on aurait aimé le faire venir, mais...
On a failli le faire venir,
et ça a été trop compliqué. Et donc, c'est un bouquin qui vient d'être publié chez Agone, et qui s'intitule « Les anarchistes dans la ville, révolution et contre-révolution à Barcelone, 1898-1937 ». Et donc, un des nombreux intérêts du bouquin, mais c'est Jean-Mathias qui va le présenter, c'est que il va situer un mouvement politique aussi dans un cadre, c'est-à-dire dans le cadre d'une politique urbaine, et aussi d'une politique économique nationale. Et donc... c'est une espèce de vision, très ancrée du mouvement. Pourquoi, en gros, est-ce qu'il y a autant d'anarchistes en Espagne ? C'est un des seuls pays européens dans lesquels il y a autant d'anarchistes à cette époque-là. Et qu'est-ce qui se passe pour que ça se fasse comme ça, quoi ? Et pourquoi est-ce que Barcelone peut être le centre d'une telle, d'un mouvement aussi vivace qui, de fait, continue d'inspirer les mouvements anarchistes actuels, puisque ça fait partie des grosses références. Donc voilà, et en plus l'auteur avait un côté très très sympathique, c'est que on va s'en apercevoir à cause des morceaux aussi, quoique non, je ne l'ai pas fait, c'est que c'est quelqu'un qui est venu à l'histoire et à la recherche intellectuelle à partir du punk et de Crass. Et donc il y a José qui se fout de notre gueule.
Il n'y a aucun morceau de Crass
sur l'Espagne. Non, mais il aurait pu trouver un morceau de Crass bien, voilà, c'est tout.
N'importe lequel.
Il n'a pas voulu. Donc José, on te zut. Donc Jean-Mathias.
Ouais, deux mots d'abord. Alors sur l'auteur, tu l'as dit, effectivement, il a un profil plutôt séduisant, Chris Hillam, parce qu'effectivement, comme tu dis, il a commencé un peu dans les fans, on pourrait dire, de ce groupe anarcho-punk Crass, groupe anarcho-punk britannique, quasiment la première vague, hein, c'est les années 80, le début des années 80, et il a été édité un des fanzines effectivement du groupe, donc il a été très proche de ce groupe-là, et il le dit d'ailleurs, en fait, c'est pas un scoop, un condamne, c'est-à-dire qu'il le dit, notamment dans la préface, traduction française, là, il le rappelle lui-même, c'est-à-dire que c'est un marqueur, qu'il est venu, effectivement, il est venu aux sciences humaines, il est venu à la politique d'abord, et puis ensuite à la recherche et à l'anarchisme par le mouvement anarcho-punk début des années 80. Donc ça, pour nous, c'est un ticket d'entrée qu'on valide en général. Hein. Donc ça, c'est pour le gars. Après, donc il s'est spécialisé, donc il vit, il enseigne maintenant à Madrid. Il est devenu, donc c'est un historien tout à fait reconnu, c'est même un des spécialistes actuels du mouvement anarchiste espagnol. Il enseigne donc à l'université à Madrid, hein, non pas à Barcelone mais à Madrid, si je me trompe pas. Et alors ce livre, Les anarchistes dans la ville, c'est la traduction française de sa thèse, qui elle a été publiée il y a déjà une dizaine d'années, donc c'est-à-dire qu'en fait elle est disponible en espagnol et en anglais depuis déjà pas mal de temps. Et donc la nouveauté et l'actualité du bouquin, c'est là, il vient de sortir, la traduction vient de sortir chez Agone, hein, l'éditeur marseillais qu'on a très souvent commenté et chroniqué ici dans cette émission. Donc c'est ça l'actualité du livre. Alors,
c'est aussi un élève de Paul Preston.
Ouais.
On peut le préciser pour les aficionados.
Ouais, historien britannique aussi.
Qui est spécialiste de la guerre d'Espagne et qui a en partie révolutionné le point de vue sur l'historiographie. Ouais. Puisque justement, ils s'inscrivent dans une perspective de, et ils sont opposés à tout un courant historique qui visait quasiment à revaloriser et à normaliser le coup d'État franquiste. Mmh. Donc là-dessus, il y a un débat.
Il en parle peu. C'est vrai que nous, en France, t'as une petite distance par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il le rappelle dans la préface. presse aussi, il explique que la thèse, en tout cas, elle a été motivée, et la publication de la thèse a été motivée par effectivement des controverses qui ont lieu actuellement en Espagne, une forme de révisionnisme historique, si on peut dire, autour de du coup d'État franquiste et puis de la fascisation, du coup, qui est de la société espagnole qui a suivi derrière. Il y a effectivement, semble-t-il, mais bon, moi je suis pas spécialiste de l'historiographie espagnole, mais en langue espagnole, il y a aujourd'hui tout un courant universitaire qui tend à réhabiliter autant que faire se peut Franco et puis ce qui a suivi. Donc évidemment, il s'inscrit contre ce courant-là. Alors le bouquin maintenant, c'est un très bon livre, moi je trouve, très bon livre, très très agréable à lire, avec beaucoup de, il y a une iconographie assez chouette dedans, beaucoup de photos d'époque, beaucoup d'informations, c'est très dense, bien écrit, je trouve, c'est-à-dire que il est très lisible et puis très pas du tout jargonnant, c'est très très fluide, hein,
c'est pas un livre universitaire avec des tonnes de notes de bas de page,
ça jargonne pas, ça surnote pas, c'est. Et il est, alors il a des particularités, ce bouquin, comme tu dis, c'est-à-dire qu'il, alors d'abord le sous-titre, c'est la période, c'est 1898-1937, donc c'est un spectre assez large, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est même pas la première moitié du XXe siècle, hein, mais c'est en gros, voilà, c'est le moment CNT de Barcelone. Le moment CNT, c'est-à-dire le moment Confédération Nationale du Travail, le moment anarcho-syndicaliste de Barcelone.
Et ça s'achève avant la défaite.
Exactement.
De la CNT.
Et des anarchistes. Enfin, avant la défaite de la République.
Avant la défaite de la République.
Ça s'arrête donc à 1937, c'est le moment où en fait la CNT est virée du gouvernement républicain qui lutte contre le coup d'État de Franco. Et lui, d'après lui, à partir de ce moment-là, en fait, ce moment anarcho-syndicaliste à Barcelone, alors, c'est pas simplement anarcho-syndicaliste, c'est réducteur des assassins. Effectivement, c'est les anarchistes. Hein. Donc, il y a effectivement l'émergence de très très particulière quand même, hein, dans l'histoire de l'anarchisme et du mouvement ouvrier et du syndicalisme en général. Il y a l'émergence de la CNT barcelonaise catalane. Hein. C'est quand même c'est quand même l'essentiel de son propos. La manière dont en fait cette institution, cette organisation ouvrière, révolutionnaire, anarchiste, va devenir une organisation de masse. Et à ma connaissance, c'est un cas unique. C'est un cas unique en Europe, mais au-delà. Hein, c'est-à-dire que assez particulier, cette émergence-là. Et en fait, ce qu'il va essayer de montrer, le sujet de son bouquin, en fait, et de ses recherches, c'est de montrer comment l'émergence de cette organisation, hein, c'est une organisation syndicale avec un projet politique derrière, comment l'émergence de cette organisation prend corps, on pourrait dire, dans un milieu urbain particulier, qui est celui de Barcelone, dans un moment historique particulier, et dans un espace particulier, qui est celui de la Catalogne et de Barcelone en Catalogne. C'est-à-dire que y a tout un tas de facteurs, il y a une espèce d'alignement des planètes assez dingue, en fait, qui est à l'origine de cette réalité historique-là, c'est-à-dire, en fait, d'un mouvement anarcho-syndicaliste qui va compter au moment en fait où la République arrive, donc en 31, il va y avoir plusieurs on est proche du million d'adhérents en fait, hein, pour la CNT, ce qui est un cas absolument unique, hein. Donc un million d'adhérents, ça va aller loin, la prise de responsabilité, l'accès au pouvoir va aller très loin, parce que vous savez que c'est le paradoxe en fait de cette situation-là, c'est qu'après, au moment de l'avènement de la République et après le coup d'État, surtout, vous allez avoir des ministres anarchistes, hein, qui vont intégrer un gouvernement, le gouvernement républicain espagnol. Donc il y a des ministres anarchistes, les anarchistes constituent une tendance majoritaire au gouvernement espagnol. Et vous avez tout un millefeuille en fait, hein, qui va en gros des espèces de corps paramilitaires libertaires, la fameuse colonne de Ruti, par exemple, jusqu'à en fait des gens qui ont des portefeuilles de ministres au gouvernement, le tout avec un ancrage dans des quartiers populaires qui sont parmi les plus pauvres d'Europe et les plus insalubres d'Europe, hein, ce qui rappelle aussi. Et en fait, le cœur de son bouquin, c'est en fait comment cette situation-là est possible. Et les outils qu'il va utiliser, et c'est en ça que c'est un livre qui est effectivement plaisant et original, je trouve, c'est non seulement la chronologie historique habituelle, une analyse historien habituel, mais il va mobiliser effectivement aussi toute une analyse spatiale hein, sur l'histoire urbaine de la ville barcelonaise, une analyse en termes aussi d'histoire sociale, c'est-à-dire qu'il fait toute une analyse de du capitalisme catalan et barcelonais, de ses fragilités, de la spécificité géographique aussi de la Catalogne et de Barcelone, qui est en fait toujours avec un paramètre qui est assez unique aussi, c'est-à-dire son espèce de rejet de l'État central à Madrid et du pouvoir central espagnol, qui fait qu'il y a toujours cette espèce de distance qui va permettre aussi des espèces de poches, de niches, pourrait-on dire, voilà, culturelles et politiques qui vont justement être à l'origine de l'émergence de ce courant-là. Il y a des très belles pages aussi où il montre la manière dont la CNT se positionne par rapport au mouvement autonomiste catalan, qui est la force, en réalité, la force qui va tirer les marrons du feu et qui va passer, en fait, au travers de cette histoire-là, et qui est d'ailleurs toujours présente aujourd'hui, contrairement à la CNT, mais ça aussi c'est intéressant. Et en fait, c'est cette espèce de mixte là où il inscrit, voilà, il y a une espèce de voilà d'analyse où il montre que la CNT comme organisation de ouvrière de masse est presque née de manière quasiment organique en fait de cette ville là. C'est-à-dire qu'il y a les quartiers, il y a les quartiers populaires, il y a les quartiers ouvriers, il y a la culture ouvrière, il y a une conscience de classe extrêmement forte et une culture de l'autonomie ouvrière qui va se mettre en place derrière ça. Alors, toute proportion gardée, ça ressemble un peu à ce que la France a connu avec le moment syndicaliste révolutionnaire, c'est-à-dire le moment de la CGT avant 1914, et le projet qui a été nourri par des anarcho-syndicalistes en France avec la Fédération des Bourses du Travail. Donc il y a des similitudes là.
C'est Ferdinand Pelloutier, c'est Pouget, c'est tous ces gens-là.
Pouget, Pelloutier, qu'on a. Bon, voilà. Et donc, alors il y a un peu une ressemblance avec ça, sauf qu'à Barcelone, ça va prendre des dimensions qui sont absolument inconnues en France, et une densité là-dessus. Avec une culture, donc une culture anti-étatique, une culture de subversion populaire extrêmement poussée, une culture anti-flic absolument absolument fascinante, une culture illégaliste également. Donc il y a comme ça une espèce de cocktail qui est quand même assez unique. Alors c'est-à-dire que en fait je trouve que un des intérêts du bouquin, c'est vraiment de restituer tout ça. Alors on va un peu faire le point sur les différentes couches de ce millefeuille là, mais je trouve que c'est une histoire. Alors bon, très souvent, bon, il y a une dimension épique qui est tellement forte, si tu veux, dans la révolution espagnole après le coup d'État de Franco, y compris dans la tradition libertaire. C'est un truc qui est tellement marqué.
Bah, ça fait partie maintenant des mythes de la tradition libertaire.
Ouais, c'est ça. Littéralement, c'est un mythe.
C'est des photos, c'est des images, c'est des romans.
Des photos. Et puis c'est d'autant plus beau qu'ils ont perdu. Et puis c'est d'autant plus beau qu'il y a toute une, qu'il y a des condamnés aux martyrs, etc.
Et puis
etc.
La trahison des communistes,
etc. Alors
voilà, il y a tout ce qu'il faut.
Chalot en studio, en entendons-nous.
Voilà. Je critique les communistes depuis le studio. Voilà, il a pas peur de Staline. Il est courageux.
Mais ce livre-là, je trouve, a vraiment l'intérêt de remettre ça en perspective du point de vue voilà, d'une histoire sociale, spatiale et culturelle. Hein, il y a un peu ça. Et ça permet de comprendre voilà, des tas de choses et de comprendre en tout cas en fait, l'espèce de degré d'incandescence auquel est arrivée cette ville en termes de culture révolutionnaire à un moment donné. Voilà. Et donc, c'est une vraie réussite là-dessus. Voilà, peut-être, bon, c'est sur la présentation, on va peut-être faire une première pause avant de faire quelques zooms plus précis sur le livre. Mais voilà, donc on parle du livre de Chris Elam, Les anarchistes dans la ville.
Aux éditions Agone. José, musique.
Yeah.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans deux ni mètre ni publicité. Et donc on sait qu'on est on est écouté dans le monde entier. Aujourd'hui on vous présente un livre de Chris Hillam, un anglais. Et oui, on parle même des anglais ici. Et qui s'intitule Les anarchistes dans la ville, qui a été édité chez Agone là, très récemment. Qui est sous-titré Révolution et contre-révolution à Barcelone, 1898-1937. Et donc, dans la première partie, Jean-Mathias nous présentait un petit peu le côté original de la démarche, qui s'ancre, déjà, il y a un côté original dans le découpage historique, parce que très très fréquemment, on s'intéresse uniquement à la période, globalement, de la République espagnole, du coup d'État et de la défaite de la République, alors que là, le spectre est plus large, puisqu'il part du début de la il part aussi de la monarchie. Et en quelque sorte des débuts du capitalisme en Espagne, et en particulier des débuts d'un capitalisme complètement dérégulé, qui va produire
et
des
effets
et fragile. C'est-à-dire que d'un côté ils essaient de se faire un maximum de fric, et de l'autre côté ils n'ont pas les structures politiques, financières et sociales pour s'en faire autant que ça, sans que ça déséquilibre tout ce qui leur permet de gagner de l'argent. Moi, c'est ce que j'ai compris du début du bouquin. Mais au début de justement de l'organisation de Barcelone et la façon dont ils vont essayer d'engranger, enfin les capitalistes ont essayé d'engranger un maximum de pognon.
Bah, si tu veux, ce qui est intéressant, je trouve, dans son analyse, alors c'est le début du bouquin, il pourrait insister un peu plus là-dessus. C'est la seule réserve que j'ai, mais en fait, c'est aussi le parti pris, si tu veux, de Chris Hillam, c'est qu'en fait, sa chronologie, et en fait, elle est maligne, sa chronologie. C'est-à-dire qu'en fait, il essaye de proposer un découpage et de travailler sur une période qui est en fait dictée par le développement de la CNT barcelonaise. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un bouquin sur l'histoire de l'Espagne, c'est pas un bouquin sur l'histoire de Barcelone, c'est pas un bouquin sur l'histoire de la Catalogne, c'est un bouquin sur l'histoire de la CNT à Barcelone, en Catalogne. Voilà. Et en fait, son découpage et sa périodisation, elle obéit à ça. Alors, c'est un peu troublant parce que du coup, si tu veux, il te parle des grandes dates, si tu veux, de l'histoire espagnole, mais il te les traite
à travers le prisme.
Et à travers le prisme de ses effets, si tu veux, sur l'émergence de cette culture ouvrière et anarcho-syndicaliste de masse. Que va être la CNT et cette espèce d'aboutissement de la CNT entrant au gouvernement espagnol en 31. Et alors, c'est à la fois un peu déboussolant, je trouve, parce que si tu veux, du coup, il passe relativement.
Pas en 31 ?
Bah sur la bascule, c'est à ce moment-là, avant le coup d'État, l'avènement de la République, c'est 31. Et du coup, en fait, si tu veux, il passe pas trop de temps, tu vois, à surligner les grandes scansions, les grands, voilà, t'as la chute de la monarchie, la dictature de Primo de Rivera en 23. Bon, alors, il monte effectivement à chaque fois, mais c'est vu depuis les quartiers populaires ouvriers de Barcelone. Et c'est assez lointain, du coup, si tu veux. Et je trouve que c'est assez malin, en fait, de sa part, parce que si tu veux, il te montre, dans la manière dont il traite ces événements à l'échelle de l'Espagne, il te montre la distance qui existe entre cette espèce d'historiographie un peu officielle où t'as la frise chronologique nationale, madrilène, espagnole, etc., etc., républicaine même. Et en fait, il essaie de te restituer la perception, si tu veux, de cela, qui est une perception assourdie, je dirais, tu vois, et éloignée et un peu lointaine du point de vue, voilà, des quartiers ouvriers populaires de Barcelone. Alors ça, c'est intéressant. Alors, par exemple, il passe peu de temps, il passe peu de temps, mais c'est essentiel, pour t'expliquer le succès du mouvement anarchiste en Espagne, ce qui est quand même une énigme, si tu veux. Pourquoi, effectivement, en Espagne, ça prend à ce point-là? Bon, alors, en fait, il y a pas mal de raisons là-dessus. C'est-à-dire que tu as tout le terreau pour qu'un mouvement révolutionnaire, ouvrier, radical se mette en place. C'est-à-dire, il y a ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il rappelle, tu as un problème, effectivement, de la structuration du capitalisme catalan et espagnol, et particulièrement catalan, qui est faible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trop de concurrence, il y a une capitalisation qui est insuffisante, beaucoup de capitaux étrangers. C'est-à-dire qu'en fait, les capitalistes catalans et barcelonais sont relativement fragile et faible. T'as un État central qui est loin et dont les gens se méfient localement, y compris la bourgeoisie barcelonaise.
Voilà. Pour des motifs nationalistes
et autonomistes contre le pouvoir castillan. Alors, c'est d'abord la monarchie, puis après c'est la dictature de Primo de Rivera, puis après ça va être le gouvernement de transition, puis après ça va être la République. Mais en fait, c'est toujours la même. C'est-à-dire qu'effectivement, t'as ce facteur catalan qui te met à distance, en fait, l'autorité du pouvoir central, toujours. Et puis, qu'est-ce que t'as d'autre? T'as aussi, en fait, du coup, une espèce de crise urbaine qui est colossale, avec une ville qui a une crise de croissance gigantesque et qui va attirer, qui va aspirer littéralement toutes les campagnes autour et même de très loin. Et donc, il va voir sa population se multiplier à vitesse grand V.
Exploser sans aucune régulation.
Sans aucune régulation, si tu veux, des offres de logement, du service public, je t'en parle même pas, de service public, il n'y a rien, si tu veux. Donc, l'État est loin, il est nul, il est faible.
C'est-à-dire que là, vous avez des photos de gens qui, par exemple, payent pour dormir en s'accrochant à des cordes.
Exactement. Pour dormir debout, appuyé contre des cordes. C'est-à-dire qu'on loue effectivement des endroits. Donc, pour les gens qui sont à la rue, les gens peuvent louer comme ça, effectivement, des logements où ils dorment, effectivement, appuyés sur des cordes. Mais c'est pareil. En termes de, alors, on parle souvent, il faut bien se représenter, on est au tournant du tout début du XXe siècle, fin du XIXe. Les chiffres, en fait, sont assez terrifiants en termes d'insalubrité. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez 38 fois plus de chances d'attraper la typhoïde à Barcelone qu'à Londres, à l'époque. C'est pour vous donner une idée des conditions sanitaires.
Qui sont épouvantables, parce que si vous lisez George Orwell dans La Dèche à Paris, à Londres, vous verrez qu'à Londres, en fait, les foyers pour travailleurs dans lesquels on dort la nuit sont abominables.
Exactement. Et bah, Barcelone, c'est pire. Voilà, Barcelone, c'est pire.
38 fois pire.
T'as une population qui explose, qui est multipliée par 3 ou 4. Le logement, l'offre de. Et t'as une immigration qui est massive. Donc, de gens qui sont d'origine de la campagne, voilà, des ruraux, des jeunes hommes, voilà, pauvres. T'as des sans-logis partout. Et en fait, t'as du coup une espèce de solidarité populaire, en fait, avant d'être ouvrière, même qui se met en place, si tu veux, dans les quartiers. Les pauvres étant au cœur de la ville, hein, notamment, il y a toute une série de cartes en fait où il explique effectivement comment la pauvreté est ancrée au cœur du paysage urbain.
Oui, parce que les riches ont essayé de partir un petit peu au loin, construire leur cité parfaite plus loin que les pauvres, mais au bout du compte, c'est les pauvres qui prennent le contrôle de la ville.
Et comme partout ailleurs, si tu veux, ils ont les mêmes fantasmes haussmanniens qu'à Paris. En fait, voilà, tout le monde regarde vers Paris parce que Paris est la ville effectivement où les ouvriers ont été mis au pas, où Haussmann a créé des grandes avenues confortables pour les bourgeois et pour les tanks et pour les tanks à l'époque, mais pour l'artillerie, empêchant les barricades et tout ça. Et à Barcelone, ça foire. Ils n'arrivent pas. Parce qu'en fait, t'as pas d'autorité, si tu es centrale, suffisamment efficace pour modeler la ville en fonction des intérêts objectifs de la bourgeoisie. Donc ça marche pas. Donc t'as des quartiers pauvres, ouvriers massifs, t'as des quartiers...
Est-ce que c'est un des rares cas où finalement le pouvoir capitaliste et le pouvoir étatique n'arrivent pas à s'accorder?
Probablement.
Pour, en quelque sorte, mettre pas la classe ouvrière. Parce qu'un des gros trucs des années anarchistes, c'est de dire le capitalisme a besoin de l'État, et l'État a besoin du capitalisme. Et donc les deux, en règle générale, coordonnent nos efforts. Et tiens, l'État peut rappeler le capitalisme et lui dire qu'il faut faire des compromis pour justement maintenir sa position, etc. etc. Et
là, peut-être. C'est une vision au cœur de l'État. Puisque justement, si tu veux, le patronat local est très souvent autonomiste. Voire nationaliste, si tu veux. Donc, plutôt hostile au pouvoir de Madrid. Et donc, tu as une division du point de vue dans le rapport à l'État. Et du coup, le patronat local va s'organiser avec ses propres forces. C'est-à-dire qu'il va créer ses propres milices. Ses propres organisations qui vont être des espèces de... Alors, c'est intéressant, parce que c'est une espèce de culture, si tu veux, proto-fasciste, que tu vas retrouver en Amérique latine après. C'est-à-dire qu'en fait, tu as des escadrons de la mort, en fait, antisyndicalistes, t'as une espèce de répétition. Ça sert de laboratoire à ça, si tu veux.
Aussi, oui.
Avec un patronat qui, en fait, est démuni parce que, alors, la police, si tu veux, qui est payée par la monarchie au départ, est parfaitement inefficace, mal payée, corrompue, et en fait, ils se font taper la gueule dans tous les quartiers populaires. C'est-à-dire qu'en fait, ils font pas la loi. Alors du coup, évidemment, ils surréagissent. Du coup, ils déclenchent des émeutes, etc. Mais ça marche pas.
C'est des zones de non-droit. Ils n'ont pas le contrôle.
Ils n'ont pas le contrôle, si tu veux. Et donc, le patronat s'autogère, si tu veux.
Comme à Neuilly.
Un peu comme à Neuilly. Alors bon, je sais pas s'il y a des milices patronales encore à Neuilly. T'as un côté un peu comme ça. Et du coup, si tu veux, c'est effectivement la fragilité du capitalisme catalan et barcelonais, celle de l'État en face, qui fait que du coup, t'as un terreau, pour une contre-culture révolutionnaire, insurrectionnelle, illégaliste, qui se met en place dans les quartiers populaires et dans les quartiers ouvriers notamment. Alors là où ils habitent, et je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il faudrait un petit peu plus de billes, mais c'est un paramètre hyper important, c'est qu'en fait, si les anars occupent le terrain, c'est parce qu'en fait, les sociodémocrates foirent aussi. Et c'est important, ça. Oui. Et alors ça, il passe pas assez de temps là-dessus. C'est-à-dire que si tu veux, il explique que si tu veux que, justement, c'est lié au fait que toutes les organisations social-démocrates, elles s'organisent à l'échelle de l'Espagne.
Ah oui.
Alors qu'au contraire, tu as une espèce de localisme, si tu veux, des anarchistes, même d'hyper-localisme. Hein, c'est-à-dire que tu as la tradition, si tu veux, des groupes affinitaires semi-clandestins qui fonctionnent, avec des espèces de côté un peu moine soldat, si tu veux. Hein, c'est-à-dire, voilà, c'est des télévangélistes. Hein. Mmh. C'est un côté un peu comme ça. C'est-à-dire que tu vois, c'est des cafés, c'est des théâtres, c'est des groupes de discussion, par groupe d'affinité, donc relativement difficile à infiltrer par les flics, hein, maximum une vingtaine, etc., même s'il y a des infiltrations quand même. Mais en fait, ça marche parce que si tu veux, la concurrence n'est pas là. L'adversaire en face, ils sont divisés, que ce soit au niveau du patronat ou au niveau de l'État. Il y a des divisions, t'as pas de concurrence, il n'y a pas de culture stalinienne. T'as pas de culture stalinienne. Et du coup, en fait, si tu veux, toutes les organisations social-démocrates ouvrières de masse apparaissent comme lointaines parce qu'elles sont liées, si tu veux, au pouvoir de Madrid. Elles sont liées à une organisation qui est à l'échelle nationale, qui n'a pas tellement de sens lorsque tu vis dans les quartiers populaires à Barcelone. Et en fait, c'est cet alignement-là, si tu veux, qui va rendre possible, du coup, toute cette espèce de contre-culture populaire. Alors, avec des particularités, c'est que c'est poussé très très loin. Hein. T'as aussi tout un tas qu'ils appellent tout un tas de centres sociaux, on pourrait dire, mais qui sont à la fois des mi-centres sociaux, mi-centres culturels, dans lesquels, en fait, tu vas avoir une véritable éducation populaire de masse qui se met en place avec des bibliothèques, avec des pièces de théâtre anticléricales, révolutionnaires, avec des groupes de randonnée en montagne, dans les Pyrénées ou autour de Barcelone, avec des organisations de jeunesse. Bref, toute une espèce d'autonomie populaire, si tu veux, qui se met en place.
C'est l'hégémonie culturelle dont rêve Gramsci, réalisé par les anarchistes à Barcelone.
Exactement.
Dans ces années-là.
Et alors tu as plusieurs courants qui convergent, si tu veux. La CNT, en fait, si tu veux, va venir après tout ça. C'est ça qui est intéressant.
Elle va naître du mouvement.
Elle va naître de ça.
Plutôt que de l'impulser.
Exactement. C'est-à-dire qu'au départ, si tu veux, tu as une sociologie populaire immigrée, pauvre, parquée dans des quartiers avec une bourgeoisie violente parce que craintive et sur la défensive avec un État lointain, qui va en fait voir apparaître tout ce qu'ils appellent ces Athénées dans les quartiers, qui sont des espèces de centres sociaux avant l'heure, des centres sociaux culturels, mais politiques en réalité, et qui sont des organisations de classe spontanée, si tu veux, avec cette espèce donc de culture qui va se mettre en place à l'échelle qui va permettre de diffuser un peu large. Voilà. T'as les groupes affinitaires qui, eux, en fait, vont très très vite, en fait, rentrer dans la tradition anarch illégaliste, dans des actions violentes, voire quasi paramilitaires, si tu veux, avec des cambriolages, avec des redistributions, des cambriolages qui vont ensuite servir à alimenter des caisses de grève. Donc, si tu veux,
l'expropriation révolutionnaire.
L'expropriation révolutionnaire. Alors, tout ce qu'il appelle, alors, j'aime bien, il a des bonnes formules aussi, ce qu'il appelle le je sais plus dans quel chapitre, à un moment, il a cette formule-là, il dit, en fait, c'est ce qui va permettre une conception alcaponienne de la révolution. Et il y a un côté effectivement comme ça. Et c'est intéressant parce que si tu veux, il te montre comme ça que tous les fils que tu vas retrouver dans cette espèce de récit assez fascinant, si tu veux, du moment révolutionnaire à Barcelone au moment du coup d'État, en fait, les fils, ils viennent de loin, si tu veux. Tu vois, t'as cette espèce. Le fait que t'aies toute cette ville-là qui, d'un coup, si tu veux, voilà, se dresse comme une espèce de ville ouvrière et que tout se retrouve révolutionné du point de vue voilà, des symboles, de l'environnement, de l'urbanisme, de la signalisation, des vêtements, de tout. T'as des pages d'Orwell dans Hommage à la Catalogne où il décrit ça. Et en fait, effectivement, personne ne s'en remet. Si tu veux, tous les gens qui ont un peu de sympathie libertaire, tu lis ça, en fait, voilà. Bon, tu te dis, bon, bah, ok, voilà, ça a eu lieu, quoi, voilà. Et en fait, il te montre effectivement que tout ça, c'est des fils d'une histoire qui est effectivement plus ancienne. Et donc, t'as cet ancrage-là, t'as cette culture-là, t'as donc à la fois des groupes, mais qui sont très, très, très fermés, très, très minoritaires, hein, ces groupes d'affinité, mais en même temps très, très actifs, si tu veux, qui n'ont pas vraiment de concurrence. Cette culture populaire-là qui va diffuser très, très largement, et effectivement, après, hein, la CNT, d'une certaine manière, va apparaître comme une espèce de prolongement institutionnel assez naturel, si tu veux, à ça. Et va permettre, effectivement, de créer des liens de solidarité, de donner un contenu réellement politique, parce que ce qui montre, si tu veux, c'est que c'est une culture très défensive, en fait, la culture des quartiers. C'est une culture très défensive, très illégaliste, très anti-flic, hein, très anti-pouvoir central, très anti-clérical. C'est très important parce que c'est un paramètre très fort en Espagne. Tous les espèces de services publics croupions dont ils disposent sont tous gérés par l'Église catholique. Avec le pouvoir et l'emprise, si tu veux, évidemment, qui est le ticket à payer. Hein. Et donc, évidemment, tu as une espèce de rejet très violent de ça, ce qui va t'expliquer, du coup, y compris toute cette espèce de. d'iconoclasme anticlérical que t'as au moment de 36. Enfin, je veux dire, il y a des images qui sont complètement fascinantes, des espèces d'exécutions du Christ, tu vois, des statues du Christ. Et cette espèce d'anticléricalisme, en fait, il vient de là. Si tu veux, c'est en fait,
on fusille les crucifiés.
On transforme. Alors ça, c'est fascinant aussi. Ils montrent des. Ça, c'est après 36. Hein, ce truc-là, c'est ce moment-là. C'est en fait, ils ont. Je savais pas ça. En fait, t'as eu tout un mouvement de reconversion des confessionnaux qui ont été transformés en kiosques à journaux, qui ont été transformés en pissotières, etc., etc. Donc t'as une espèce de tu vois, nulle part ailleurs t'as vu ça. Par ailleurs, t'as vu ça. Et en fait, c'est un peu, si tu veux, comme si... Donc, t'as une forme, une espèce de théâtralisation, tu vois, de ce truc-là. Mais qui n'est pas de la mise en scène. Mmh. C'est qu'en fait, si tu veux, l'Église, c'est le visage du mensonge de l'État et de l'abandon de l'État, en fait, si tu veux. L'abandon de la puissance publique, si tu veux. C'est du mépris de classe. Voilà. L'Église, c'est ça. C'est le masque du mépris de classe, en fait, en Espagne.
Ah, c'est marrant, parce que c'est quelque chose qui apparaît chez un auteur aussi, comment dire, aussi droitier que Bernanos.
Bien sûr.
Les Grands Cimetières sous la Lune. Bien sûr. Justement, à un moment, il dit l'Église a trahi les pauvres en Espagne, et c'est pour ça que lui, il va finir par rompre avec le franquisme, parce qu'il a exactement la même perception.
Tout à fait. Et ça, c'est un truc que tu vois, voilà, il te remet, si tu veux, ces fils-là sur une histoire qui est pas si longue que ça, hein, parce que tu vois, en fait, c'est 40 ans, en fait, hein, sa période. Mais en fait, il te montre, voilà, c'est pas quelque chose qui émerge comme ça, voilà.
De nulle part. De nulle part.
Et du coup, c'est assez intéressant, si tu veux, ce point-là. Ça te permet de comprendre, effectivement, même s'il n'insiste pas assez, à mon avis, là-dessus, sur effectivement cette espèce d'alignement des planètes qui fait que tu vas avoir cette particularité, libertaire et anard à Barcelone. Et alors voilà, donc ça, t'as ce temps-là, donc ça, c'est la première partie du livre. T'as une deuxième partie, on va faire une pause rapidement. La deuxième partie, en fait, qui est pour le coup vachement intéressante, c'est en fait, il te montre comment effectivement la CNT, du coup, capitalisant, je dirais, hein, sur cette situation-là. Bon, c'est un peu dur d'utiliser ce mot-là, mais c'est un peu l'idée quand même. C'est quand même un peu l'idée. Hein. Capitalisant sur cette histoire-là, je dirais, comment elle va se trouver embarquée dans l'avènement de la République espagnole, hein, après la chute de la dictature de Primo de Rivera, et comment, d'une certaine manière, ça va la tuer. Hein, c'est-à-dire comment ça va la tuer après le coup d'État et au moment de la guerre, hein, d'Espagne et malgré l'embryon de révolution sociale qui se déroule à ce moment-là. Voilà, donc on va faire une deuxième pause et puis on reprendra après là-dessus.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour vous présenter dans une troisième, mais on l'espère, une dernière partie, parce qu'on va quand même pas trop vous saouler.
sur un livre de Chris Hillam, un historien anglais consacré à Barcelone anarchiste. Donc il s'intitule Les anarchistes dans la ville, révolution et contre-révolution à Barcelone, 1898-1937, édité chez Agon. Et donc avec Jean-Mathias nous présenter un petit peu pourquoi finalement il y a cette espèce de d'alignement des astres de qui rend possible l'apparition de quelque chose d'unique, en fait d'unique au monde quasiment.
Je dirais ça aussi, hein.
C'est-à-dire un mouvement anarchiste de masse qui est spontané et qui va finalement produire lui-même sa propre structure d'organisation politique. Et donc c'est lié à la fois à une faiblesse du capitalisme, à une faiblesse de l'État, à une faiblesse des partis de contestation qui sont eux-mêmes trop centralisés, trop nationalistes. Et donc là, effectivement, vous avez quelque chose d'improbable quoi, qui va se produire. Parce qu'habituellement, on a affaire, que ce soit en Allemagne, en Angleterre ou en France, à une alliance opportune des capitalistes et des étatistes, des nationalistes et des bourgeois qui, en quelque sorte, sans forcément le planifier, hein, mais juste... associent suffisamment leurs forces pour empêcher que ça tourne trop mal pour eux, pour leurs intérêts. Et là, à Barcelone, vous avez une alliance, mal fichue ou impossible de ces forces du pouvoir, qui vont à la fois peut-être désespérer Billancourt, Barcelone, et puis et ne pas produire une réponse répressive suffisante pour empêcher ce désespoir de se transformer en force politique. Donc l'analyse
suffisamment efficace, en tout
suffisamment
cas.
Efficace.
Elle est violente, super violente.
Mais elle est pas efficace. Et donc là-dessus, on voit comment Mathias nous disait comment justement les anarchistes vont finalement, en quelque sorte, occuper l'espace politique populaire de manière
hégémonique, contre-hégémonique,
contre-hégémonique. Ce serait du Gramsci et hégémonie culturelle, mais et ça, ce sera un bon exemple à la rigueur. Alors, tu voulais nous parler de quoi
tu as deux autres temps, si tu veux, dans le bouquin. Alors, il y a les deux derniers temps du bouquin. Alors, il y en a qui est tout à fait passionnant, je trouve, et qui est un peu le point fort du livre, parce que c'est une histoire qui est mal connue, qui est souvent peu rapportée ou peu développée. C'est le moment républicain de la CNT. C'est-à-dire le moment entre la période, entre le moment où la République, la chute de la monarchie, la chute définitive de la monarchie, qui elle-même a déjà été effacée par... l'écroulement de la monarchie et l'échec de l'aventure Primo de Rivera et de l'aventure Caudillo, de la première vague des Caudillo en Espagne, là. Donc 31-36, si tu veux, hein, 31-36. Et alors là, t'as un truc assez intéressant, parce que il te fait une histoire très serrée, en fait, du mouvement autonomiste catalan, nationaliste catalan, et de la manière dont, en fait, il va accéder au pouvoir en Catalogne avec la République. La manière dont lui-même se fait niquer, en fait, par le pouvoir central, pour bien poser les choses. Et la manière dont, en fait, il va servir. Alors, c'est assez classique comme analyse, si tu veux. C'est un peu les nationalistes catalans sont un peu ces sociaux traîtres à lui, hein, à Chris Hillam. C'est-à-dire qu'il est très très sévère, si tu veux, avec les effets du gouvernement républicain sur le peuple de Barcelone, je dirais, hein, sur le peuple et sur la classe ouvrière de Barcelone. Il est extrêmement sévère. C'est-à-dire que pour lui, il y a effectivement un lâchage en race campagne sous des beaux discours légalistes, universalistes, constitutionnalistes, il y a une vraie escroquerie, hein, dans l'idéologie républicaine catalane, d'après lui. On pourrait discuter là-dessus, parce que je sais pas si on peut être aussi catégorique que ça. Après, je suis pas spécialiste de ce sujet-là, mais comme ça, au pif, je soupçonne un brin de
mauvaise foi.
Peut-être dans le truc, mais en tout cas ça reste un truc intéressant.
C'est tout des sociotrestres.
T'as un peu, il y a ce risque-là. En tout cas, c'est voilà, une question que je me posais. Mais c'est un truc qui est hyper intéressant. Parce que si tu veux, il montre comment, si tu veux, la CNT, qui est l'organisation de masse dans la classe ouvrière, hein, c'est aucun équivalent ailleurs, si tu veux. Hein, le nationalisme catalan, en fait, lui-même, effectivement, alors, il existe, hein, il est organisé, mais il est divisé politiquement, politiquement, idéologiquement, en tout cas. Il est organisé, mais voilà, tu as des tendances qui vont du proto-fascisme corporatiste à l'échelle catalane à une espèce de gauche très radicale, quasiment mélenchoniste, tu vois, dans la figure de Macià, qui va prendre la main, en fait, hein, sur le mouvement nationaliste catalan, qui va prendre la main. Et donc, c'est un mouvement mais c'est pas une organisation de masse, si tu veux, tu vois. Il recrute dans la bourgeoisie catalane et aussi dans les classes moyennes, chez les artisans. Il recrute aussi dans les campagnes autour de Barcelone, hein, chez les petits propriétaires terriens, pas les gros. Hein, mais les petits propriétaires terriens, les autres sont plutôt monarchistes, hein, ou favorables, si tu veux, à un pouvoir monarchique centralisé fort, en tout cas. Donc, en fait, c'est une espèce de... On est typiquement situé dans une idéologie de politique de classe moyenne, hein, si tu veux, de classe moyenne supérieure, je dirais. Hein. Donc, voilà, il y a aussi la bourgeoisie cultivée, il y a les avocats, il y a les lettrés, il y a des universitaires... Tout ça, effectivement, est très, très humaniste. Tout ça est très respectueux de l'état de droit. Tout ça est respectueux de l'égalité face à la loi. Tout ça est très anti-monarchiste. Tout ça est très décentralisateur aussi. Donc, en fait, tout ça est favorable à l'état de droit. Et c'est d'ailleurs y compris à la légalisation des organisations ouvrières qui ont été, évidemment, interdites par la monarchie d'abord, puis ensuite par Primo de Rivera, une fois qu'il accède au pouvoir et qu'il met en place un état... pas proto-fasciste, mais très autoritaire, très centralisé. En fait, il y a une foule d'interdictions comme ça, légales, si tu veux, des syndicats, des grèves. Il y a une espèce de répression féroce, hein, de la police féroce, mais pas très efficace, comme ça, depuis des années. Et si tu veux, du coup, le mouvement républicain va apparaître, lui, comme la possibilité, si tu veux, institutionnelle, légale, de faire vivre, en fait, hein, ces organisations de masse ouvrières, et du coup, d'aller plus loin. Enfin, je veux dire, l'équivoque classique, si tu veux. Et il montre comment, du coup, la CNT, si tu veux, sans le dire officiellement, va contribuer, si tu veux, à la victoire électorale de ce mouvement-là en Catalogne et à Barcelone. Le mouvement qui joue sur... Il y a plein d'ambiguïtés, si tu veux, dans la politique espagnole. C'est-à-dire qu'en fait, t'as ces états, ce qui va conduire à l'avènement de la République, c'est des élections municipales. Aussi. Ah ouais. Oui, c'est les élections municipales, c'est-à-dire t'as des contestations un peu partout en Espagne du gouvernement central, et en fait le gouvernement, pour se réassurer ou pour repasser, si tu veux, par un soutien populaire, va effectivement lancer des élections municipales qui vont lui péter à la gueule, si tu veux, et en 31 il se prend une espèce de gifle monumentale avec un raz-de-marée des partis républicains un peu partout en Espagne, et du coup derrière, effectivement, c'est le régime qui s'effondre et c'est la République qui est proclamée. Sauf que t'as toujours cette ambiguïté propre à Barcelone et à la Catalogne, c'est qu'en fait le mouvement républicain, lui, il a mobilisé en fait ses électeurs sur un projet nationaliste et sur un projet d'indépendance de la Catalogne. Et sur un projet, effectivement, de grands travaux, de gros investissements. On ne paiera pas les dettes de la monarchie, on ne paiera pas les dettes du gouvernement précédent. On va investir en faveur du peuple, de l'urbanisation, du logement, des services publics, des écoles, des hôpitaux, de la santé, etc. etc. Sauf qu'en fait, la première mesure en fait, de la République, ça va consister à dire non, mais vous êtes solidaire des dettes des prédécesseurs, donc en fait à fermer le robinet, clac, terminé, et donc en fait les cas, de toute façon, ils n'ont pas un radis à investir, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se retrouver avec des masses populaires qui maintenant ont des organisations légales, et qui vont leur poser des tas de problèmes, parce qu'évidemment elles réclament ce que les autres avaient promis, et du coup évidemment la solution qui va aller classique, ça va être une forme de répression policière massive. Ils ne réforment pas la police, alors qu'ils s'étaient engagés à le faire, sous des formes, il y avait des projets de garde nationale, si tu veux, contrôler démocratiquement, par des organisations de sécurité autogérées par les quartiers, etc. etc.
Évidemment, avec des officiers élus.
Évidemment, rien de tout ça ne voit le jour. Et donc, si tu veux, tu vas avoir comme ça une espèce de gradation, de tension. Et en fait, les deux figures de cette période-là, c'est assez fascinant. T'as Macià, qui est en fait le leader autonomiste catalan, qui est à la tête, si tu veux, de la région catalane et de Barcelone, qui est un type de gauche sincère, assez radical, mais qui a aucun moyen et qui est, si tu veux, structurellement au service de la bourgeoisie barcelonaise, et donc qui va devoir faire une espèce de répression légale tout en tenant un discours humaniste, populiste, etc. etc. Donc tu as Macià d'un côté, et en face, tu as une forme de ce qu'il appelle une militarisation des anarchistes, c'est Durruti. Et Durruti, il est déjà sur le marché depuis des années, c'est le tribun, si tu veux, anarchiste par excellence. Alors, qui a une face obscure, hein, c'est-à-dire que si tu veux, c'est un bolcho, en fait. C'est un bolcho, Durruti. Il n'y a pas d'autre mot. Si tu veux. C'est vraiment la culture bolchevique, c'est-à-dire c'est la culture des minorités agissantes, de l'entraînement, la propagande par le fait. Il a pas de respect, si tu veux, particulier pour les masses ouvrières, Durruti. Il s'en fout. C'est-à-dire que si t'as une grève qui ramollit quelque part, eh ben, il n'hésite pas à faire péter l'usine à la bombe sans demander l'avis des ouvriers concernés, si tu veux. Donc t'as ça. Et en même temps, si tu veux, t'as cette espèce de figure héroïque.
Comme ça. C'est un braqueur de banque de formation.
Exactement, c'est un braqueur de banque de formation. Et alors, bon, c'est voilà où. C'est la culture illégaliste anarchiste. En même temps, c'est un tribun. C'est un vrai tribun. C'est-à-dire que si tu veux, il a une voilà, c'est une élocution, il a un charisme apparemment assez vertigineux. Et en même temps, avec cette espèce de culture héroïque, si tu veux, voilà, de l'illégalisme, voilà, du braqueur de banque à grand cœur. Mais avec, je te dis, alors, l'honnêteté du bouquin, c'est qu'il passe pas, si tu veux, ça sous le tapis. C'est-à-dire qu'en fait, il montre qu'il compris, à partir du moment où tu as une organisation de masse comme la CNT, il y a effectivement des débats, il y a des enjeux de pouvoir, y compris en interne, bien évidemment, et tu as des tendances très très fortes et des divergences extrêmement fortes. C'est-à-dire que le courant anarchiste proprement dit, mené par Durruti et puis par quelques autres et par ses groupes d'affinités, il dit en tout, ça n'a jamais regroupé probablement plus de 200 personnes.
Ah ouais.
Ouais. Sauf que, et dans le même temps, t'as des centaines de milliers d'adhérents à la CNT, sauf qu'en fait, si tu veux, face à la répression républicaine, hein, c'est là où effectivement ça se militarise le plus. C'est eux qui prennent la main, si tu veux, sur, alors non pas la CNT qui va finir par être interdite de nouveau, mais en tout cas sur les réseaux CNT, si tu veux, sur la marque, je dirais. Hein, t'as la création, alors en 27, il y a eu la création de la FAI, Fédération anarchiste ibérique, qui en fait, elle est aussi d'inspiration anarchiste dure, je dirais, si tu veux, et qui va regrouper institutionnellement, alors un peu partout en Espagne, tous ceux qui sont partisans d'un affrontement insurrectionnel direct, en quelque sorte, dont fait partie Durruti et ce qu'ils appellent les groupistas, donc en fait, si tu veux, ces groupes d'action qui sont voilà, des espèces d'organisations clandestines armées, paramilitaires, pourrait-on dire. Hein. Et donc ça, effectivement, si tu veux, va en fait amener et entraîner, si tu veux, la ville de Barcelone dans une espèce de cycle comme ça de, voilà, de cambriolage, d'attentats et de répression derrière. Hein, qui fait que du coup c'est extrêmement extrêmement tendu, extrêmement violent, hein, en fait, entre le pouvoir républicain qui est arrivé notamment grâce à la mobilisation du peuple par la CNT, hein, et avec le soutien de la CNT, avec cette espèce de figure tutélaire de Macià, là, qu'une espèce de voilà de septuagénaire, tu vois, de gauche, avec des sympathies libertaires, mais qui du coup se retrouve à mener une politique qui est une politique en fait de centre droit très répressive en réalité, et en face du coup cette espèce de militarisation voilà des anarchistes. Et ce qui va se passer, et t'as le coup d'État là-dessus. Et alors, du coup, et c'est intéressant, du coup, de le comprendre avec toute cette perspective-là. Parce que si tu veux, on a lu tellement de trucs là-dessus, enfin, voilà, et notamment, voilà, sous forme plus ou moins romancée, hein, voilà, ça va de Malraux, Orwell, Bernanos, Hemingway, Ken Loach, enfin, voilà, t'as une telle charge là-dessus, si tu veux, que du coup, quand t'as effectivement la mise en perspective que fait le bouquin, bah, c'est vachement plus parlant, si tu veux, c'est vachement plus parlant. Et tu vois que t'as cette espèce de. Et là, en fait, si tu veux, Macià, les nationalistes catalans, sous la pression et sous la menace, en même temps, vont aussi mettre, si tu veux, la CNT au pied du mur en disant, bah, en fait, bah, venez les gars. En fait, venez. Parce que, en fait, à Barcelone, c'est la CNT et c'est les réseaux de la CNT et les groupistas de Durruti et consorts, si tu veux, c'est eux qui, en fait, qui font foirer le coup d'État. C'est-à-dire que c'est eux qui, en fait, tiennent les. Ils savent faire, si tu veux. Ils connaissent les carrefours, ils connaissent les quartiers, ils ont les dépôts d'armes, ils savent quoi bloquer ou quand mobiliser. Ils ont, en fait, les hommes qui sont prêts pour ça. Et en fait, ils vont renvoyer les putschistes dans les casernes. Voilà, ils vont contrôler les carrefours, ils vont contrôler effectivement les casernes, et en fait le coup d'État foire. Voilà, le coup d'État foire, et du coup si tu es un pouvoir républicain extrêmement répressif qui se retrouve si tu avec un peuple armé en fait, alors pas massivement mais avec suffisamment si tu veux en fait d'organisation militaire pour ben voilà en fait tenir objectivement la réalité du pouvoir dans la rue. Et là du coup si tu es la CNT mise un peu au pied du mur par Massa qui dit ben en fait vous venez au gouvernement.
Ouais.
nos gouvernements. Et là, si tu veux, du coup, tu as des débats à plus savoir quoi en foutre. Et en fait, ils montrent comment, si tu veux, tu as cette espèce de... En fait, on arrive en fait à ce moment-là à une espèce de limite de cette espèce d'élan historique là qu'il a décrit depuis 30 à 40 ans. Parce que t'as des en fait, il n'y a pas de prise du pouvoir, il n'y a pas de révolution politique. En fait, t'as une révolution sociale pendant sur un moment, mais t'as pas de révolution politique. C'est-à-dire qu'effectivement, les mecs vont être absorbés par les institutions et par le gouvernement républicain contre-putschiste en quelque sorte. Et t'as en même temps, t'as tellement d'élan, si tu veux, et t'as une telle force de l'élan révolutionnaire et d'une telle organisation de masse derrière, que la révolution, elle va se faire quasiment tout seul, si tu veux. Voilà. Donc t'as des collectivisations d'usines, des collectivisations de terres. Durruti lui-même, il part avec plusieurs milliers d'hommes, il part pour faire la révolution, voilà. Tranquille, hein, voilà. Donc ils savent pas quoi en faire de ces mecs-là, si tu veux. Ils savent pas quoi en faire. Donc en gros, ils vont l'envoyer très très vite à Madrid, pour contrer, si tu veux, les phalangistes. Il va se faire descendre à Madrid très vite, en fait, Durruti. Mais il y a 200 000 mecs à son, 200 000 personnes à son enterrement. Enfin, c'est une star, si tu veux, voilà. Et en fait, il montre, alors ça, c'est les derniers temps, c'est plus connu, si tu veux, la manière dont finalement la CNT a été petit à petit étouffée, hein. Donc c'est pour ça, voilà, bon, c'est pas très grave si on n'a pas le temps de développer ça, mais il raconte tout ça très très bien aussi, si tu veux, hein. La manière dont effectivement, t'as une espèce d'élan révolutionnaire qui est porteur de, voilà, de toutes ces décennies-là, si tu veux, de toutes ces contradictions-là.
Et, étouffé, ouais.
et qui va se retrouver étouffé là-dessus. Et en fait, alors, c'est intéressant aussi parce que, si tu veux, pour ce qui est de la Catalogne et de Barcelone, il te montre que, si tu veux, la contre-révolution stalinienne en Espagne, en fait, elle est très neuve au moment. En fait, elle a pas d'histoire. En fait, oui. Elle a pas d'histoire. En fait,
ça, c'est
une fonction historique, si tu veux. Ouais. En fait, tu vois, c'est un truc que
ça a été montré par pas mal d'auteurs.
C'est ça, si tu veux, que t'as pas d'organisation stalinienne. Ouais. En fait, t'as simplement des fractions, si tu veux, qui sont contre-révolutionnaires, qui vont s'organiser autour, si tu veux, voilà, des communistes staliniens espagnols, et qui vont éliminer, voilà, ceux qui les gênent du point de vue, voilà, politique et social. Et en gros, et c'est fini. Et en 37, c'est terminé. Avant même, si tu veux, que la République s'effondre, si tu veux, le rôle ou le moment historique, si tu veux, de la CNT et de l'anarchisme de masse, en fait, est terminé. Voilà. C'est-à-dire, les ministres anarchistes sont dégagés, le POUM est liquidé en même temps. Et en fait, voilà, t'as une espèce d'économie de guerre centralisée, perdante, qui se met en place. Mmh. Et si tu veux, ce moment, voilà, anarchiste de masse, qui est effectivement un cas unique, à ma connaissance, dans l'histoire. Passe. À cette échelle-là, c'est unique. Après, t'as d'autres points qui sont comparables, hein, mais. Même la Commune de Paris, c'est pas ça. Même la Commune de Paris, c'est pas ça. Hein, si tu veux, et donc ce moment-là, effectivement, finit par absorption, je dirais, hein, par absorption de l'élan révolutionnaire dans les institutions républicaines et dans la défaite de ces institutions-là.
Donc c'était Jeudi Noir pour présenter Chrissy Lam, Les anarchistes dans la ville, Révolution et contre-révolution à Barcelone, 1898-1937. Il était récemment chez Agone, donc un super bouquin. Et là, vous allez pouvoir écouter un dernier morceau choisi par José, The Builders and the Butchers. À mon avis, c'est de la folk, si je me souviens bien. J'ai déjà écouté ça, plus ou moins. Un morceau qui s'intitule Barcelona. Vous retrouverez toutes les références musicales des super morceaux choisis par José sur le site Gurdulu, Archive, Jeudi Noir. Et on se retrouve la prochaine fois, c'est-à-dire sans doute un autre jeudi d'ici peu. Southern
souvenirs d'école, il reste que les trous noirs. Je m'éclaire à la luciole, c'est tes yeux dans le soir, c'est tes yeux dans le soir. L'artilleur de Mayence me l'a dit au bout de la nuit. Si tu te méfies de la chance, t'arrives. Elle est partie. J'allais sans haleine, méfiant du temps qui passe, sans jamais dire je t'aime. J'avais peur que ça casse, j'avais peur que ça casse. Mais toi, ma nuit de laine, mon île, mon voyage, mon amour porcelaine, je t'emmène au bout de mon âge, je t'emmène au bout de mon âge. L'artilleur de Mayence m'a dit je le dirai plus. Si tu te méfies de la chance, t'arrives, mais t'es perdu.
Cette rose avait glissé de la gerbe qu'un héros gâteux portait au monument aux morts. Comme tous les gens levaient leurs yeux pour voir hisser les couleurs, je la recueillis sans remords. Et je repris ma route et m'en allais guérir. Oh, dit bonheur, la chance! Un corsage à fleurir, car c'est une des pires perversions qui soit que de garder une rose par devers soi. La première à qui je l'offris tourna la tête avec mépris. La deuxième s'enfuit et court, encore en criant au secours. Si la troisième m'a donné un coup d'ombrelle sur le nez, la quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Car aujourd'hui c'est saugrenu, sans être louche on ne peut pas fleurir de belles inconnues. On est tombé bien bas, bien bas. Et ce pauvre petit bouton de rose a fleuri le veston d'un vague chien de commissaire. Quelle misère! Cette bouteille était tombée de la soutane d'un abbé, sortant de la messe, ivre mort. Une bouteille de vin fin millésimé, béni divin, je la recueille sans remords. Et je repris ma route en cherchant plein d'espoir, un brave gosier sec pour m'aider à la boire. Car c'est une des pires perversions qui soit que de garder du vin béni par devers soi. Le premier refusa mon verre en me lorgnant d'un œil sévère. Le deuxième m'a dit railleur de m'en aller cuver ailleurs. Si le troisième sans retard au nez m'a jeté le nectar, le quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent.
car aujourd'hui c'est saugrenu. Sans être louche, on ne peut pas trinquer avec des inconnus. On est tombé bien bas, bien bas, avec la bouteille de vin millésimé, bénitivin. Les flics se sont rincés la dalle, un vrai scandale. Cette pauvre poignée de main gisée, oubliée en chemin par deux amis fâchés à mort. Quelque peu décontenancée, elle était là dans le fossé. Je la recueillis sans remords et je repris ma route avec l'intention de faire circuler la virile effusion, car c'est une des pires perversions qui soit de garder une poignée de main par devers soi. Le premier m'a dit fous le camp, j'aurais peur de salir mes gants. Le deuxième d'un air dévot me donna 100 sous d'ailleurs faux. Si le troisième ours mal léché dans ma main tendue a craché, le quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Car aujourd'hui c'est saugrenu, sans être louche on ne peut pas serrer la main des inconnus. On est tombé bien bas, et la pauvre poignée de main victime d'un sort inhumain. Elle a terminé sa carrière à la fourrière.
Il y a dans la brise une odeur de lavande, la maison dort autour de ses chambres obscures. Dans la cour est un arbre où pendent les amandes, le soleil immobile fait vibrer les vieux murs. Il y a dans la vallée des champs bleus et des blés, un ruisseau asséché aux berges ensablées. Il y a tout cela et toi tu n'es pas là, toi tu n'es pas là. Au bord de la grande route, il y a un potier, une maison où je sais que l'on vend du miel, et qui repose à l'ombre longue des cyprès, un oiseau en criant a traversé le ciel. Il y a les genêts aux fleurs jaunes et le thym, et les cigales chantent depuis ce matin. Il y a tout cela et toi tu n'es pas là, et toi tu n'es pas là. Il y a dans la garrigue des chemins qui s'en vont et qui se perdent dans l'herbe sèche et les pierres. Il y aura ce soir des amis qui viendront, qui parleront peut-être la nuit tout entière. Certains vont boire et rire sous le ciel étoilé, d'autres s'endormiront au hasard dans le pré. Il y aura tout cela, tu ne viendras pas, tu ne viendras pas.
Prenait la rosée pour du rosé d'Anjou, et la lune en quartier pour quartier des bijoux, les romantiques. Ils mettaient des tapis sous les pattes du vent, ils accrochaient du crêpe au voile du printemps, les romantiques. Ils vendaient le Brésil en prenant leur café et mouraient de plaisir pour ouvrir un baiser et regarder dedans briller le verbe aimer et le mettre au présent. rien qu'il fût au passé. Ils ont le mal du siècle et l'ont jusqu'à 100 ans. Autrefois de ce mal, ils mouraient à 30 ans, les romantiques. Ils ont le cheveu court et vont chez Dorian Guy s'habiller de British ou d'Italianori, les romantiques. Ils mettent leurs chevaux dans le camp des jaguars en fauchant leur avoine aux prairies des trottoirs avec des bruits de fer qui n'ont plus de sabots et des hennissements traduits en stéréo. Ils mettaient la nature au pied de leurs chansons, ils mettent leurs voitures au pied de leur maison, les romantiques. Ils regardaient la nuit dans un chagrin d'enfant, ils regardent l'ennui sur un petit écran, les romantiques. Ils recevaient chez eux, dans les soirs de misère, des gens vêtus de noir qu'ils prenaient pour leurs frères. Aujourd'hui, c'est pareil, et fraternellement, ils branchent leur destin aux abonnés absents.
Connais-tu le chat de Mickey? Le chat de Mickey est un cadeau pas pour n'importe qui, plus précieux qu'écu ou ducat. Connais-tu le chat de Mickey? C'est une tranche de mocha, crème comme du Tchaïkovski, moelle comme du tapioca sur le joli chat de Mickey. Moi j'arpège à l'harmonica le mont chauve de Moussorski et les 50 sa mazurka. Et sur son joli chat Mickey, sur son beau balalaïka, se joue la complainte de maquis ou quelques mélopées inca. Connais-tu le chat de Mickey? Aux effluves de paprika, de pain parasol de maquis.